Alors nous tournons ce matin dans la parole de Dieu dans le psaume 73. Le psaume 73. Et dans le psaume 73, nous avons 28 versets. Et nous les allons commencer ce matin pour lire les 15 premiers versets du psaume 76. 73. Parce que j'ai changé d'idée. Psaume 73. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est changé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautaines. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. J'ai donné comme titre à mon message le découragement, le désespoir, la dépression, les 3D, et la cause et la solution. Et c'est peut-être simplesse. En passant, mon nom est Doug, puis le docteur n'a pas pu se présenter. Alors, c'est moi qui est ici. Mais j'ai écrit la cause et la solution. Et 45 fois au moins, j'ai voulu écrire les causes et les solutions. Parce que je ne suis pas sans ignorer que la dépression, découragement, dépression, c'est bien compliqué. C'est bien compliqué. Et qu'il n'y a pas qu'une seule cause, surtout. Et qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Je réalise que c'est en partie héréditaire. Que c'est en partie chimique, puis en partie on ne sait pas. Mais comme bien nos choses dans la vie, il y a les règles de 80-20. C'est que 80% de cela, c'est la cause. Puis dans 80% des cas, c'est la solution. Puis les 20% autres, mais on règle ça une par une. Alors ce matin, on parle de la cause et la solution. Et dans ce psaume, nous avons d'abord une introduction. Et ensuite, nous avons une descente. Puis après ça, nous avons au verset 17 une pointe tournante. Puis après ça, entre le verset 18 et 27, nous avons remonté. Et au verset 28, conclusion. Puis j'ai voulu déployer mes talents d'artiste, qui en passant sont inexistants. Puis j'ai vu dans un livre, un beau charte, où ça montrait, un point haut, le verset premier, Dieu est bon. Une descente dans les sombrages de désespoir. Puis une pointe tournante au verset 17, puis une remontée entre les versets 18 et 27, puis une conclusion au verset 28, lorsqu'on revient encore, puis on dit encore que Dieu est bon. On commence, puis on termine en disant que Dieu est bon. On le voit là, je n'ai pas fait mon dessin, mais votre imagination est beaucoup plus remplie de talents que mes pauvres talents d'artiste. Commençons par l'introduction. On nous dit que c'est un psaume d'Asaph. Puis il faut comprendre qu'Asaph était un ami de David. C'est un de ses proches collaborateurs. Il était directeur du chœur de chant. On voit bien qu'au début, que David lui avait donné certains de ses propres psaumes pour qu'il les chante. Asaph a commencé par jouer un instrument, un simple instrument, dans le service du Seigneur. Il est devenu après directeur du chant, puis il a fait chanter au peuple de Dieu, puis au chœur de chant, des chants que David avait écrits. Puis il a continué en écrivant lui-même des psaumes. Il écrit le psaume 50 et les psaumes 73 à 93. Il a donc écrit 12 des 150 psaumes dans le livre des psaumes. Il écrit 12 psaumes. Il était tout un homme. On voit quand même qu'il a laissé son nom pendant des générations et générations. Même après le retour de Babylone, après l'exil, ceux qui conduisaient les chants dans le temple étaient encore appelés les fils d'Asaph. C'est à ce point-là qu'il y a eu un impact sur l'adoration pour le peuple de Dieu. Puis cet Asaph-là a connu et expérimenté le découragement et la dépression. Alors, si ça vous arrive, bien, vous êtes en bonne compagnie. Puis moi, je prie ici de sa part son honnêteté et sa franchise, parce que ça nous aide, je pense, de voir ses luttes et de voir ses solutions et de voir que nous ne sommes, comme Jacques le dit, nous sommes, qu'est-ce que dit Jacques? Élie, nous sommes un homme avec des passions, bien ordinaires, comme feu Élie. Ce psaume traite de deux grands sujets. Il traite de le découragement et de la dépression, puis il traite aussi du bonheur des méchants. Un des grands thèmes de l'Ancien Testament. Parce qu'on regarde autour de nous, puis ceux qui sont méchants sont souvent plus chanceux puis plus heureux que ceux qui ne sont pas méchants, n'est-ce pas? Parce que c'est donc difficile de comprendre pourquoi puis d'accepter cela. Puis c'est un grand thème de l'Ancien Testament. Par exemple, Job nous parle de ce sujet-là. Lisez ce grand livre de Job. Puis Job est souffrant, puis il est l'homme le plus juste sur la terre. Lorsque Satan se présente devant Dieu, Dieu dit « Garde Job. Garde Job. » Tellement qu'il était un homme de Dieu que Dieu s'en est vanté devant Satan. Puis il est l'homme qui a le plus souffert sur la terre aussi. Il a souffert. Puis ses amis lui disent « Tu souffres parce que tu es méchant. » Puis Job dit « Non, je ne suis pas méchant. » Puis tout le livre de Job se déroule sur ce sujet-là. Puis le livre de Job se termine sans nous donner une réponse bien satisfaisante. Moi, je lis le livre de Job, puis je termine le livre de Job, je suis encore sur mon fin. Job nous dit, qui sommes-nous pour questionner Dieu? C'est un peu ça qu'il dit. Bien content. Le psaume 37 aussi traite de cette question-là. Et si, comme moi, vous avez des problèmes de mémoire, mais vous pouvez au moins vous souvenir que 73, le chiffre inversé, c'est 37, n'est-ce pas? Alors, ça m'aide à me souvenir que ces deux psaumes-là traitent de ce problème-là. Puis, psaume 37 nous parle de ce sujet-là. Puis, il va un petit peu plus loin. Le psaume 37 va nous dire, « Attends, sois patient, Dieu va finir par régler, par rectifier cette situation-là. Attends le temps de Dieu, Dieu va régler ça. » Dans ce psaume, nous trouvons six fois le mot « cœur ». Bon, pas de surpris, le cœur, pas l'organe qui pompe le sang, mais le centre de notre volition, puis notre volonté, le centre de nos émotions, notre cœur. C'est un livre qui parle de le découragement et de la dépression. Il me semble qu'il parle de le découragement, du découragement et de la dépression, ce n'est pas surprenant que ça nous parle du cœur. Dans le verset 1er, nous avons le cœur pur. Et dans le verset 7, nous avons les pensées de leur cœur. Et dans le verset 13, nous avons le cœur qui est purifié. Et dans le verset 21, nous avons le cœur qui est aigre. Et dans le verset 26, nous avons le cœur qui se consume. Et dans le verset 26 aussi, nous avons le cœur dans Dieu et son rocher. Quatre fois dans ce psaume, nous avons l'expression « pour moi ». Puis malheureusement, c'est caché dans... Moi, j'ai vérifié une dizaine de différentes versions en français et d'autres en anglais. Et malheureusement, c'est caché dans la plupart des psaumes. Mais ça découpe bien le psaume si on sait que dans l'hébreu, la même expression exactement, « pour moi », revient 4 fois. Dans le verset 2, c'est traduit « toutefois ». Dans le verset 22, c'est traduit « j'étais ». Dans le verset 23, c'est traduit « cependant ». Puis dans le verset 28, c'est traduit « enfin comme faux », « pour moi ». Et dans le psaume, donc, 73, nous montre une situation de le point de vue d'Asaph. Il dit continuellement ces 4 fois « pour moi, pour moi, pour moi ». C'est comme ça que je perçois les choses. Parlons maintenant de la descente. Mais je pense qu'on peut diviser les versets 2 à 15, 16 que nous avons lus en 4 parties. On voit d'abord l'envie des méchantes dans les versets 2 et 3. On voit la description des méchantes dans les versets 4 à 12. On voit des mauvaises conclusions que Asaph tire dans les versets 13 et 14. Et verset 15, au moins, on voit une décision. Regardons ces points-là une par une. L'envie des méchants. Envie de méchants. Ils pensent à leur bonheur. Ils regardent les méchants puis ils disent, ils sont donc bien ces méchants-là. Ils sont donc bien. Puis ils comparent cela à ses propres difficultés. Moi, je suis dans la misère. Eux, ils sont bien. Puis ils se fâchent contre Dieu qui permet que cela continue comme cela. N'est-ce pas surprenant que ce grand homme de Dieu, écrivain de 12 psaumes, ami de David, conducteur du chant dans le tabernacle. Sa famille, ses descendantes, deviennent des conducteurs du chant dans le temple pendant plusieurs générations. Cet homme-là se fâche contre Dieu. Est-ce que ça vous arrive de vous fâcher contre Dieu? Est-ce que ça vous arrive d'admettre que vous fâchez contre Dieu? Puis voilà la racine de notre problème très souvent. Dieu ne nous traite pas comme on pense qu'il devrait le faire. Tous mes amis ont des chums et des blondes. Mes amis sont tous mariés, puis moi, je ne le suis pas. Mes amis ont des bons jobs, puis moi, je n'ai pas de bons jobs. Mes amis n'ont pas de tel problème, puis moi, j'ai tel problème. Dieu, ce n'est pas juste. Moi, je veux vivre la vie chrétienne, puis j'ai une vie pure, puis je m'abstiens de certaines choses, puis ça va mal dans ma vie, puis lui, il vit comme il veut, puis fait des choses que je ne me permets pas, puis lui, il va bien. Pourquoi Dieu, tu permets ça? Dieu, tu n'es pas juste envers moi. Puis on se fâche contre Dieu. L'envie des méchantes. Chers amis, moi, je crois que c'est une des racines premières, une des plus profondes des racines de le découragement et la dépression, c'est lorsqu'on n'est pas content de Dieu. Puis au fond, vous savez que c'est une attaque sur la souveraineté de Dieu. Dans notre théologie, en quoi la souveraineté de Dieu? Dans cette assemblée, la majorité des leaders, je crois, sont assez calvinistes dans leur théologie. On croit beaucoup, on présente beaucoup ici la vérité que Dieu est souverain dans l'univers. Jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose de ma vie que je n'aime pas. Puis là, ça devient la théorie, n'est-ce pas? Une bonne théologie. Mais mal traduite des fois, cette théologie-là dans nos propres vies. Regarde la description des méchantes maintenant, versets 4 et 12. D'abord, ils n'ont pas de problème, ces méchants-là. Ils possèdent une santé parfaite, ils ne sont jamais malades. Ils se réjouissent dans leur orgueil. Le mot collier ici est intéressant. Vous savez que le collier est un symbole de dignité chez ce peuple-là. Quand le fils prodigue est revenu, le père lui a mis un collier au cou. Signe de dignité. Puis la dignité de ces personnes-là, c'est leur orgueil. Ils jouissent d'une popularité. Dieu n'a aucune place dans leur vie. Ils semblent s'échapper toujours aux conséquences de leurs actes. Est-ce que ça ne nous choque pas quand on a des amis et des personnes qu'on est qui font des choses ou des politiciens qui font des choses, puis ils échappent aux conséquences? Hein? Puis ils sont toujours en train de s'enrichir. Hein? le contenu. Ils n'ont pas de souci pour le lendemain. La vie, c'est aujourd'hui pour ces personnes-là. La vie, c'est aujourd'hui. Maintenant, c'est toujours. Ils n'ont aucun égard pour Dieu et ses commandements. Dans le verset 20, verset 7, le mot « pensée » que tu trouves au verset 7, ça nous dit « les pensées de leur cœur se font jour ». Dans l'hébreu, c'est intéressant, le mot « pensée », là, c'est le mot « image »,« idole ». Et c'est un jeu sur les mots. Leur idole est peut-être eux-mêmes. Dans le verset 8 et 9, ils contrôlent les autres par leurs paroles. Ces images de Hitler qui soulèvent le peuple allemand, qui font faire des choses terribles à ce beau peuple par sa langue, par ses discours. En passant, j'ai passé beaucoup de temps. Vous savez, je travaille beaucoup les psaumes depuis des années. Quand on lit les psaumes d'Asaph, ils reviennent souvent de ces questions-là. Et il y a une chose qui devient claire lorsqu'on lit tous les psaumes d'Asaph, c'est que ces méchantes-là ne sont pas juste à l'extérieur du peuple de Dieu. Est-ce que je vous surprends? Jusqu'à ce que vous lisez l'histoire de Jésus, qui sont les méchantes qui ont donné des misères à Jésus? N'est-ce pas les pharisiennes? N'est-ce pas les sadducéennes? N'est-ce pas les juifs? Lisez l'évangile de Jean, les juifs. Ça réfère toujours au leader. Hein? C'est pas surprenant que les personnes du monde donnent des misères aux enfants de Dieu. Mais j'ai nettement l'impression, quand je lis les psaumes d'Asaph, qu'il a en vue ici, dans ses paroles, non seulement ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, du peuple de Dieu, mais ceux aussi qui sont à l'intérieur. Il y a un mot clé ici, dans ce psaume, au verset 3, lorsqu'on a fait la description des méchants. Au verset 3, nous avons ce mot « bonheur » en français. En voyant le bonheur des méchants. Je vais vous laisser deviner c'est quoi le mot « bonheur » en grec, en hébreu. Je suppose que pour beaucoup de vous, vous ne connaissez pas beaucoup de mots en hébreu. Mais je suis certain que vous connaissez ce mot-là. C'est peut-être pour la majorité de nous le seul mot en hébreu qu'on connaît. C'est quoi? Shalom. Lorsqu'on voit le shalom des méchants, rencontrer un juif sur les rues, il ne dira pas bonjour. Il va dire quoi? Il va dire shalom. C'est le mot clé ici. Puis, il faut vraiment se mettre dans la peau d'un juif pour comprendre la profondeur de ce mot-là lorsqu'on décrit ces méchants-là. Parce que ces méchants-là ne doivent pas se jouir du shalom. Le shalom, c'est pour le peuple de Dieu, c'est pas pour les méchants, vous savez. Le shalom, c'est quoi? Mais c'est la santé, c'est la paix, c'est le bien-être. Ça représente tranquillité, prospérité, perfection. Ça représente repos, harmonie. Absence d'agitation puis de discorde. Même le Messie, on nous dit qu'il est le prince de la paix, le prince de shalom. Le Messie va enfin apporter le shalom. Puis Asaph, pour qui ce mot est précieux, pour qui ce mot shalom représente des bénédictions qui sont réservées au peuple de Dieu qui ont des cœurs purs. Asaph voit dans sa vie qu'il n'a pas cette shalom-là, puis il voit la vie de ces méchants-là, puis il dit, je vois le bonheur, je vois le shalom de ces méchants-là. Puis au verset 2, quand il dit ça, il dit, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser quand tu as vu ça, tellement que ça l'avait bouleversé qu'il était en danger de glisser, puis descendre sur cette pente, cette descente que nous avons décrite tantôt. Puis, la prochaine pas chez Asaph, c'est qu'il tire de mauvaises conclusions au verset 13 et 14. Il dit au verset 13, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. » Il y a un gars, je connais un petit peu, qui écrit sur son Facebook dernièrement, des propos intéressants dans lesquels il dit, vous autres, les jeunes, vous êtes dans une secte, vous êtes en train de perdre votre jeunesse. Il y en a peut-être qui ont vu ça, cette secte-là, là, cette Facebook-là. En train de gaspiller notre vie, on vit dans l'innocence, dans la pureté, on essaie de se garder correct dans notre vie. Puis c'est en vain, dit Assas. Parce que moi, je vis comme faux, puis je suis malheureux, puis eux ne vivent pas comme faux, puis ils sont bien. C'est ça la mauvaise conclusion qu'ils tirent. Pourquoi vivre une vie pure? Pourquoi servir Dieu? En plus de ne pas recevoir ce que j'avais espéré, j'ai des troubles additionnels qu'eux n'ont pas. Ma situation est pire parce que je veux faire le bien d'Asaph. Est-ce que vous vous sentez comme ça des fois? Ça ne vous arrive pas? Mais oui. Mauvaise conclusion. Il pouvait bien être déprimé, ce pauvre Asaph-là. Mais Asaph, au verset 15, prend une sage décision que je veux noter ici. Il dit, puis c'est peut-être difficile à comprendre ce verset-là, il dit, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai le reste de tes enfants. Asaph est en train de dire, fais attention à ce que je dis, parce que je pourrais faire mal aux autres. Vous me suivez, là? Je fais attention à ce que je dis. Parce que si c'est vrai que de s'isoler et de rester muet, ce n'est pas la bonne solution, puis on va revenir à ça tantôt, il est aussi vrai qu'il faut faire bien attention à qui nous parlons de nos sentiments comme nous sommes découragés. Des fois, je suis découragé, puis je parle avec ma femme un peu de ça. Puis elle dit, « Doug, fais attention, tu ne vas dis pas ça aux jeunes, dis pas ça à nos enfants, tu vas les décourager. » Puis c'est toujours sa première réaction. Et c'est vrai, ça. Et donc, quand on est comme ça, il faut parler avec certaines personnes de cela, mais n'importe qui. Elles savent mettre un garde à sa bouche pour ne pas faire mal aux autres. C'est une chose de vivre à l'intérieur ces sentiments-là. C'est une autre chose de les partager avec des personnes mûres qui peuvent nous aider. C'est une autre chose de contaminer des personnes qui sont plus fragiles avec ces réflexions-là. Vous me comprenez? C'est ça le verset 15. On peut faire beaucoup de mal à des personnes fragiles et sensibles avec ces sentiments-là. Assez de cette descente. On est sur le point tournant au verset 17. On va le lire, le verset 17. Verset 16. Asaph dit, « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes et tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. » Le point de tourment. Voyez-vous, il est entré dans le sanctuaire, ou comme le psaume le dit, ici la traduction, ici il dit, il est entré dans les sanctuaires de Dieu. Comment le comprendre cela? Jean Calvin, c'est pas surprenant, cet homme qui était tellement attaché à la loi de Dieu, il nous dit que dans le sanctuaire, dans la boîte, l'arche de l'Alliance, il y avait les 10 commandements, les 2 tables de pierre sur lesquelles ils étaient inscrits, les 10 commandements. Donc, quand il a regardé la loi de Dieu, ça l'a consolé. C'est beau. Je suis presque toujours d'accord avec Calvin, mais pas ce fois-ci. D'autres vont dire, ah, dans le sanctuaire, dans le tabernacle, dans le temple, c'est là où l'offrande consommée par l'autel brûlait continuellement sur l'autel. Et ça démontre la fin du péché. Puis en regardant ça, Asaph a vu la fin du péché. Encore une fois, c'est beau. Moi, je ne suis pas sûr que c'est vraiment le vrai sens de ce passage. Moi, je crois que dans ce passage, Asaph nous dit, j'ai commencé à voir les choses comme Dieu les voit. J'ai vu les choses de la pointe de vue. Vu de Dieu. Il est des hommes sages dans l'assemblée, quand je parle avec, que des fois, ils ont un point de vue différent de moi. Puis vu que j'ai toujours raison, puis je n'aime pas que les autres ne soient pas d'accord avec moi, ça me frustre, ça me choque quand des personnes ont des points de vue différents des miennes. Mais ça arrive rarement, mais de temps en temps qu'ils ont raison et que j'ai tort. Asaph ici rentre dans le sanctuaire. Il rentre dans la présence de Dieu. Il entre dans la présence de Dieu, puis il voit les choses comme Dieu les voit. Puis c'est lorsque nous voyons les choses telles que Dieu les voit que nous le voyons tels qu'ils sont vraiment, n'est-ce pas? Puis c'est ça que Asaph voit ici. Regardons maintenant le remonté entre les versets 18 et 27. Asaph ici reçoit une nouvelle conception de la destinée des méchants. Le problème avec nous, c'est que Dieu est moins pressé que nous. Il y a certaines personnes que je frapperai assez rapidement. Une chance que je ne suis pas Dieu. Une chance. Il y a certains méchants. Moi, ça s'appelle le gars qui est caché en Afghanistan ou dans l'ordre d'Iran. Ben Laden. Bon, excuse-moi. Là. Ouais. Il me semble que, je ne sais pas s'il est mort ou vivant, mais s'il était vivant, là, ouais. Vous allez m'excuser, là, mais en tout cas, je ne le dirai pas. Puis on oublie que Dieu est passion envers nous. Une des choses qui caractérise Dieu, c'est qu'il est passion. Hier, on était au mariage de France, le fils de Michel Pedneau, puis le gars qui devait célébrer le mariage a été pris sur le pont Champlain. Vous savez que on célébrait beaucoup de mariages, puis souvent des mariages en retard parce que l'épouse est en retard, ou la fille d'honneur est en retard, ou la mère de la mariée est en retard, ou bien, je ne sais pas, les invités sont en retard, puis le mariage est retardé. Mais alors, tout le monde était là, puis le mariage était très en retard, pour une demi-heure, 45 minutes en retard, Pierre, 45 minutes en retard, parce que le gars qui devait célébrer le mariage était pris sur le pont Champlain. Et si vous avez été à Montréal dernièrement, vous savez que le pont Champlain, c'est à éviter. Grosse construction. C'est à éviter même quand il n'y a pas de construction. Mais puis, quand il a commencé le mariage, ils ont lu le 1 Corinthiens 13 qui nous dit que l'amour est patient. Puis le célébrant a dit, merci de votre patience envers moi. Je sais que vous m'aimez beaucoup. Dieu est patient. Il est patient envers nous, puis il est patient envers les méchants. Puis Asaph a dû comprendre que quand Dieu ne frappe pas les méchants, et quand les méchants semblent prospérer, puis toutes ces choses qu'on a vues, ces deux pages de choses qu'on a vues tantôt qui sont vraies, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste envers eux ou envers nous. C'est simplement que Dieu est patient. Dieu était patient envers Zachée, ce méchant publicain, ce gars qui volait les taxes de tout le monde. Puis Dieu a donné à Zachée l'opportunité de se repentir. Puis un jour, Zachée s'est repenti, n'est-ce pas? À la grande surprise de tout le monde, surtout les disciples. N'est-ce pas? Quoi dire de Matthieu? Quoi dire de l'apôtre Paul? Toute l'Église a été surprise quand Paul s'est repenti, n'est-ce pas? Hein? Oh, Dieu est patient. Puis Asaph reçoit une nouvelle conception de la destinée des méchants. Quand on lit, parce qu'Asaph va plus loin que Job, il va plus loin que le psaume 37. Asaph dit que, OK, les méchants peuvent prospérer, mais ils vont détruire soudainement. Et soudainement ne veut pas dire tout de suite, mais ça veut dire que quand ça arrive, bang! N'est-ce pas? C'est ça que ça dit. Écoute, je vais le relire. Tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber en mer, en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, exterminés par une faim soudaine. Au verset 20, il dit comme un songe au réveil. Seigneur, ton réveil, tu repousses leur image. des grands problèmes de sommeil, puis j'ai pris voilà longtemps que je ne veux pas devenir accro à des pilules pour dormir. Mais une fois par mois, maximum une fois par 2 mois, quand ça fait 2-3 nuits, je n'ai pas dormi, je me permets une petite pilule. Puis, je ne les aime pas parce que ça me donne des rêves. Puis, ils sont réels, ces rêves-là. Rêves. Mais des fois, je rêve des choses, là, vraiment malheureuses. Puis, je me réveille, puis je ne suis pas sûr si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas si vous arrive, cela. Là, hein? Je déteste ça. Mais, après quelques secondes, au pire une minute, ces rêves-là sont disparus, c'est plus une réalité, et c'est oublié, ça n'a pas d'effet, n'est-ce pas? Ça n'a pas de suite, ça ne dure pas, n'est-ce pas? Puis on dit ici que la vie de ces méchants-là, c'est comme un songe au réveil. Tu repousses leur image. C'est ça, ces méchants-là. Asaph reçoit cette conception-là. On a besoin de se souvenir de cela. Il y a quelques semaines, en fait, le psaume 1 l'a décrit autrement. Le psaume 1 a dit comme la paille qui se dissipe, n'est-ce pas? Le fermier garde le blé, le fermier garde le foin, la paille se dissipe. Ou bien on la met sous les vaches, vous savez pourquoi. Hein? C'est ça la vie de ces méchants-là. Deuxièmement, Asaph reçoit une nouvelle conception de lui-même dans le verset 21 à 22. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Les bêtes n'ont pas d'intelligence. Alors les chiens peuvent apprendre à rouler et aller chercher un morceau de bois, là. Mais on ne peut pas leur apprendre grand-chose, un chien. Les vaches, c'est-tu stupide des vaches? Les brebis, c'est-tu encore plus stupide qu'une vache? Trop stupide pour se sauver lorsqu'ils voient un lion. Ça prend des bergers continuellement avec nous autres, avec eux. Un peu comme nous, hein? On est des brebis, nous. Bêtes. Asaph regarde dans son désespoir, dans sa dépression, dans son découragement. Il regarde ses pensées envers Dieu, puis envers les méchants, envers l'injustice de Dieu envers lui-même, puis il dit, j'étais stupide, j'étais sans intelligence, j'étais comme une bête qui n'a pas beaucoup de compréhension. C'est comme ça que j'étais. Puis des fois, je suis comme ça. On se questionne la bonté de Dieu envers moi. Troisièmement, Asaph a une nouvelle conception de la présence de Dieu dans les versets 23 et 24. Oh, que j'aime ces versets. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu me saisis par la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Et dans le découragement, puis dans la dépression, chers amis, on se sent seul, isolé, abandonné, n'est-ce pas? Et Asaph dit, je ne l'avais pas compris, mais je suis toujours avec toi. Même dans le plus cru de son découragement, Asaph a réalisé que Dieu était là avec lui quand même. Vous comprenez? Tu es toujours avec moi. Nouvelle conception de la présence de Dieu. Dieu ne nous a pas abandonnés. David l'a écrit dans le psaume 139, lisez-le. Dieu est omniprésent. C'est une grande doctrine théologique. Mais il y a une réalité de la vie chrétienne que Dieu est toujours avec moi. Puis Asaph ici a reçu une nouvelle conception de la bénédiction de Dieu, de la shalom de Dieu sur les justes, dans les versets 25 et 26. Quel autre ai-je au ciel que toi? Mais sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et de mon partage. J'ai le shalom de Dieu, la présence de Dieu, la paix de Dieu dans ma vie. Je l'ai ça. Il a compris cela. J'ai écrit ceci, les versets 24 et 26 sont peut-être la plus profonde expression de la vraie vie spirituelle dans toute la Bible. Moi, je crois qu'ils sont parmi les versets les plus importants de la Bible. Tous les versets sont importants, mais ceux-là particulièrement. Et nous devons tous les apprendre par cœur. Je vais les relire. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu me saisis la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. » D'où penser sur ce dernier verset 27. D'abord, ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Remarquez bien ici qu'Asaph a compris que le découragement, les trois D, appelons comme on l'a vu, désespoir, découragement, dépression, a deux aspects ici. Ma chair, il y a des causes physiques, des fois, et mon cœur. Hein? Les deux. Puis des fois, ils peuvent être consumés. Mais Dieu est mon rocher, il est solide, puis il est mon partage. Ce mot partage est particulièrement important ici. Parce qu'Asaph, il y a quelque chose que je n'ai pas dit de lui. Il y a quelque chose sur Asaph que je n'ai pas dit. De quelle tribu qu'il était en Israël? Est-ce qu'il venait de la tribu de Juda ou de Benjamin? Il était Lévite. Et tous les autres tribus d'Israël avaient un partage. Lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, Dieu a divisé la terre promise selon toutes les tribus, n'est-ce pas? Ils avaient chacune leur terre. Mais les Lévites n'avaient pas de partage. Les Lévites n'avaient pas de terre. Les Lévites n'avaient pas de territoire qui leur appartenait. Il n'y avait pas de ferme, il n'y avait pas de province. Dieu était leur partage. Ils vivaient des offrandes au temple, n'est-ce pas? Hein? Puis quand Asaph crie sur le Dieu, mon partage, c'est un Lévite qui a dit cela. Hein? Puis il faut le comprendre, nous, que Dieu est notre partage. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici puis donner l'exemple du Seigneur. Dans Jean 14, puis c'est une bonne idée de tourner dans Jean 14. Si vous êtes prédicateur, vous ne devez jamais ouvrir des parenthèses. Ne faites pas ça. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Jean 14:1. Très intéressante ici, très profonde. Jésus met vraiment son doigt sur un bobo ici. Jean 14:1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Bon, c'est quoi le contexte ici? Jésus, tu sais, c'est le dernier souper. Jésus se prépare pour sa crucifixion et pour partir, puis laisser ses disciples seuls, n'est-ce pas? Hein? Puis il dit que vos cœurs ne se troublent point. Puis là, il dit, crois en Dieu, puis crois en moi. C'est comme ça, il disait, si votre cœur est troublé, c'est parce que vous ne croyez pas. N'est-ce pas? Puis quand notre cœur est troublé, parce qu'on a des misères à croire. Parce qu'on ne croit pas. Le problème de croire. Puis il continue au verset 27 avec la même chose. Il dit au verset 27 de Jean 14, je vous laisse la paix. Oh, qu'Asaph avait besoin de la paix de Dieu. Et que nous avons besoin de la paix de Dieu. Puis Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Hein? Croyez. Tournons, s'il vous plaît, dans Matthieu 26. Nous avons ici un passage surprenant. Matthieu 26, verset 37. Matthieu 26, 37. Jésus arrive à Gethsemane, dans le jardin. Matthieu 27, verset 37. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques. Puis il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Wow! Vous avez des fois l'angoisse, vous avez des fois la tristesse, dépression, découragement. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a vécu ça. Il est Dieu. Il a vécu l'angoisse. Puis remarquez qu'il n'a pas cédé il a lutté, puis il a gagné. Je m'excuse, Yannick, on est rendu sur le cliché 25. Cinq choses rapidement que nous pouvons apprendre sur ce passage-là, ce passage ici avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est aussi notre parfait exemple. Puis dans ce passage-là, nous avons un exemple de comment lutter contre le découragement et la dépression. Cinq choses ici. Remarquez bien qu'il a commencé par choisir des amis pour l'accompagner. On le lit au verset 27, il prit avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée. Il n'a pas pris les 12 disciples. Il y en a le dingue qui ne pouvait peut-être pas résister, qui ne pouvait pas peut-être faire face à cela. Il a pris les trois plus forts avec lui. Il les a choisis, ses amis. Il a choisi des amis pour l'accompagner. Chers amis, laissez-moi vous dire par expérience, puis je vous ai déjà dit que moi, je suis ici une personne qui lutte un peu avec le découragement, puis des fois avec la dépression aussi. Je viens d'une famille, moi j'ai des ma tante qui ont passé leur vie dans un asile. J'ai ma tante qui est rentrée dans un asile à l'âge de 22 ans, puis est sortie à mort, qui est morte dans un asile, si tu comprends. Toute sa vie était là. Puis j'ai quelques ma tantes. Moi, j'ai ma tante, la soeur de mon père, qui passe 6 mois de sa vie dans une institution depuis de nombreuses années. Alors, dans la famille, ça a l'air d'être héréditaire un petit peu. Ou bien, c'est un comportement qu'on a appris aussi. Peut-être c'est ça. Alors, je sais qu'est-ce que c'est. Je l'ai vécu personnellement un petit peu. Je lutte contre cela. Je l'ai vu dans ma famille. J'ai vu mon père qui était sûrement beaucoup déprimé souvent. Notre Seigneur Jésus-Christ savait que lorsqu'on fait face à cela, qu'on ne peut pas faire face à elle. Il n'a pas choisi n'importe quoi. Il a choisi les amis les plus forts qu'il avait, puis il a dit, accompagnez-moi. Lorsqu'on est déprimé, découragé, on veut s'isoler. On veut s'isoler. On veut être seul. C'est un peu masochiste de notre part. Je suis abandonné, puis je m'arrange pour être abandonné. Je m'isole, n'est-ce pas? Jésus ici prend ses amis avec lui. Deuxièmement, il s'est ouvert avec eux. Regarde qu'est-ce qu'il dit au verset 38. Il leur a dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il s'ouvre avec eux. Oh, que c'est difficile d'admettre à nos amis proches qu'on est déprimé, qu'on est découragé. C'est comme si on disait, « Je ne suis pas vraiment spirituel, je ne suis pas vraiment une personne forte, je suis faible. » Surtout les hommes ont des difficultés à admettre ça, n'est-ce pas? Jésus l'a admis. Il s'est ouvert à ses amis. Pas n'importe qui. Quand Asaph a dit, « J'ai fait attention. » Jésus l'a fait avec ses amis forts, mais il l'a fait. Troisièmement, il leur a demandé de prier avec lui. Oui. 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jetait sur face, puis il va leur dire, tu n'as pas pu veiller avec moi, veillez et priez. Au verset 41, il demande à ses amis de prier pour lui. Dans ces moments-là, il faut appeler nos amis qui sont forts dans le Seigneur, puis leur dire, prie pour moi, je passe des moments difficiles. Quatrièmement, il a prié lui-même intensivement à Dieu. Regardez au verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et puis pria ainsi, « Oh mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Puis il prie 3 fois. Puis on dit qu'il priait tellement fort qu'il souhaitait prier fort. Puis quand on est découragé, déprimé, la dernière chose qu'on a le goût de faire, c'est de prier. Parce qu'on est en train de bouder Dieu. N'est-ce pas? Et on ne prie pas. Et notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il fut Dieu, était homme. Il a vécu aussi une expérience qui est commune aux hommes. Corinthiens nous dit, en toute chose, il était tenté comme nous. Mais ici, il a vaincu la tentation parce qu'il a prié à Dieu intensivement. Puis cinquièmement, il s'est confié à la sagesse et volonté de Dieu. Verset 42, que ta volonté soit faite. Et oh, donc, nous avons donc des misères avec ça. On a l'impression qu'on est plus intelligent que Dieu, puis on sait mieux que Dieu qu'est-ce qui est bon pour nous, puis on doute la bonté de Dieu, puis Dieu nous impose des choses, puis ce n'est pas ça qui est meilleur pour nous, puis on lutte contre la volonté de Dieu. Mais on n'a pas fait face à la croix, nous. On ne fera jamais face à ce que le Seigneur Jésus-Christ a confronté ici. Puis dans cela, le Seigneur a baissé sa tête et il dit « Que ta volonté soit faite. » C'était difficile à accepter. Il a accepté que ta volonté soit faite. Et nous aussi, nous devons apprendre ça. Je répète ces 5 choses-là. Il a choisi des amis pour l'accompagner. Il s'était ouvert à eux. Il leur a demandé de prier avec eux et pour lui. Il a prié lui-même intensivement à Dieu. puis c'est confier la sagesse et la volonté de Dieu. Conclusion. Intéressant de voir les pronoms dans le psaume 73. Dans la première section, c'est eux autres. Ils pensent aux méchants. Dans la deuxième section, il dit je. Et il peut bien être déprimé s'il pense aux autres, puis il pense à lui-même. Dans la troisième section, ça change un peu, dans la pointe tournante, puis il dit vous. Puis il tourne vers Dieu, puis il dit vous, il pense à Dieu. Mais oh, que c'est beau, la dernière section. Dans la dernière section, il dit vous et moi. Vous le voyez là? Eux, je, vous et moi. Quelle progression ici. Vous savez que ce psaume commence par la bonté de Dieu. Ça dit, dans le premier verset, « Oui, Dieu est bon pour Israël. » Je ne sais pas si, dans le premier verset, Asaph est en train de dire, « Voici ce que je sais qui est vrai théologiquement, puis je le dis, mais ouh, que c'était dur à croire. » Ou s'il écrit le verset premier, après avoir écrit tout le reste, là. Mais il commence là au bon pont, puis il dit « Dieu est bon pour Israël ». Et même si c'est caché un peu dans la traduction en français, dans le verset 28, il dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Le mot « bien » ici, c'est le même mot qu'en le verset premier, « bon ». Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, ça c'est théologique dans le verset premier. Dans le verset 28, « Dieu est bon », ça c'est expérimental. M'approcher de Dieu, c'est mon bon, c'est mon bon. Solution pour Asaph, chers amis, les circonstances dans sa vie n'ont pas changé. Croyez-moi, je suis encore un tout jeune homme, hein? Je peux vous dire que la victoire sur le découragement, la dépression, ce n'est jamais des circonstances qui changent. Les circonstances n'ont pas changé pour Asaph ici. Les personnes autour de lui n'ont pas changé. Oh Seigneur, si seulement ma femme peut changer un peu. Si mon mari pourrait changer un peu, si mes enfants pourraient changer, si mes parents pourraient avoir un peu de bon sens, là, je pourrais être heureux. Non. Les gens ne changeront probablement pas, mais ce n'est pas ça qui va nous rendre heureux, qui va rendre les choses meilleures. Non. Il n'a pas trouvé de pilule magique. Non. Il est entré dans les sanctuaires de Dieu. Il est entré dans les... Puis c'est toujours un problème relationnel. Notre problème, là, c'est notre relation avec Dieu. Puis quand on met ça à sa place, là, les autres choses deviennent bien moins importantes. La vie commence à faire du bon sens lorsque nous parlons avec Dieu. Notre communion avec Dieu est notre plus grand privilège. Si vous oubliez tout ce que j'ai dit ce matin sur le psaume 73, c'est comme ça que ça se termine le psaume. Asaph comprend que la plus importante chose dans la vie, le plus grand privilège que nous avons, c'est notre communion avec Dieu. C'est notre communion avec Dieu. Il n'y a rien de plus important que cela. Je termine avec une histoire. Il y a un homme qui était avocat aux États-Unis dans les années 1800. Qui a passé une très grande dépression, tellement profonde qu'il a essayé de se suicider un couple de fois, puis ses amis ont caché tous les couteaux, puis tous les rasoirs, puis les fusils, puis les armes dans sa maison, puis dans son entourage. Il a questionné toute sa vie, il a questionné la valeur de sa vie, et il a écrit ceci, puis on a ça qu'il a écrit, il a dit « Je suis l'homme le plus misérable que j'ai jamais vécu. » Je ne sais pas si je vais m'améliorer un jour. Je crains que je ne pourrai jamais sortir de ce trou profond. Il est sorti de sa dépression. Il est devenu un grand homme. Est-ce que vous connaissez son nom? Qui? Abraham Lincoln. Grand homme. En effet, plus que je lis l'histoire, puis vous savez que j'aime l'histoire, une des mes autres déprimé préféré, c'est Charles Spurgeon, peut-être le plus grand prédicateur dans les derniers 500 ans. qui a passé plus que la moitié de sa vie pas capable de prêcher parce qu'il était couché dans un lit, la face contre le mur, déprimé complètement. Il écrit à un moment donné dans les châteaux des désespoirs, sous des châteaux des espoirs, sous les donjons, il y a encore des cavernes plus profondes et je vis dans ces cavernes-là continuellement. Grand homme de Dieu. On nous dit que pendant 40 ans, il n'y a pas un bateau qui a quitté l'Angleterre qui n'était pas rempli de ces sermons qui étaient envoyés partout dans le monde. Partout dans le monde, on avait hâte que les bateaux arrivent pour pouvoir lire ces sermons. Puis c'est ça, comme ça qu'il a vécu toute sa vie. Alors, chers amis, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est lorsqu'on réalise que la présence de Dieu, la communion de Dieu, c'est la vraie solution. C'est là qu'on sort de là. Seigneur, c'est par nous avec ta bénédiction. Bénis ton peuple. Pour ceux qui luttent en ce moment avec le découragement, la dépression, oh Seigneur, tu sais comment on est mal fait, comment on trouve des solutions dans les mauvaises places. Puis on sait que c'est un problème complexe, puis on a juste touché la surface ce matin. Mais au fond, on a quand même touché au fond de la solution. Quel privilège d'être en communion avec toi, grand souverain roi de l'univers, le meilleur des personnes. Tu es une personne d'une bonté infinie. Puis tu as décidé d'être notre ami. Tu nous appelles tes amis. Tu veux être en communion avec nous. Tu nous as sauvés. Tu nous donnes le privilège de nous approcher de toi. Puis Seigneur, dans les difficultés, on s'enfuit de toi. Comme Jonas s'est enfui, comme David s'est enfui, nous nous enfuyons de toi. Pardonne-nous, Seigneur. Exerce ta grâce envers nous. Apprends-nous à nous approcher de toi. Puis de puiser notre joie dans ta présence, dans notre relation avec toi. Nous demandons ces choses au nom de Jésus.